Vous écoutez, on lit pour vous.
La violence scolaire, un problème persistant, un texte de Farida Agogno, paru le 20 juin 2024 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse. À la suite d'enquêtes concernant les incidents dans les écoles, la vérificatrice générale a publié un rapport sur les mesures de prévention et de lutte contre la violence dans le but d'assurer la sécurité des éducateurs et des élèves. Lors de la conférence de presse, Kim Adair, vérificatrice générale de la Nouvelle-Écosse, a expliqué les raisons de la publication de son rapport. La montée de la violence dans les écoles est un phénomène préoccupant qui ne peut être ignoré. Madame Adair a mentionné qu'au cours des 7 dernières années, les incidents contre les éducateurs et les élèves ont augmenté de 60%. Ryan Lutz, président du syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse, soutient que ses collègues et lui ont observé une augmentation constante de la violence scolaire au cours de la dernière décennie. De plus, nous avons constaté une augmentation de la gravité des incidents, y compris la violence contre le personnel scolaire, ce qui était auparavant inédit. Selon M. Lutz, diverses causes expliquent ce problème, notamment les difficultés des élèves à réguler leurs émotions, le manque de soutien pour les personnes handicapées et les besoins en santé mentale des élèves qui sont parfois négligés. Les pressions sociales, les problèmes économiques et les exigences académiques aggravent parfois la situation. En résumé, ce manque de ressources contribue à la frustration et peut conduire à des comportements violents. Madame Adair a également révélé que la collecte des données sur la violence scolaire présente des lacunes. Sans des données précises et complètes, il est difficile de comprendre pleinement l'ampleur du problème et de mettre en place des mesures de prévention et d'intervention efficaces. Par exemple, le rapport dit que plus de 18%, soit 26 000 des incidents violents signalés au cours des 7 dernières années, n'ont fait l'objet d'aucune action de la part de l'administration scolaire. Madame Adair précise que, selon l'UNESCO, la violence scolaire engendre des conséquences graves et durables sur la santé mentale, le bien-être et l'éducation des enfants. Pour réduire les violences, le président du NTSU souligne l'importance de mettre en œuvre des conséquences cohérentes et appropriées afin de communiquer clairement que de tels actes ne sont pas acceptables. Ces répercussions peuvent dissuader d'autres personnes et favoriser un environnement plus sécuritaire et respectueux. Par exemple, si un élève frappe un enseignant un mardi et qu'il est de retour en classe le mercredi sans soutien supplémentaire ou conséquences perçues, alors je pense que cela envoie le mauvais message aux autres élèves, raconte-t-il. Sam Côté, consultant en prévention de la violence dans les écoles et en citoyenneté numérique, avance que l'identification des comportements précurseurs de violence pourrait offrir une opportunité de prévention. Face à ce défi, la vérificatrice générale recommande 5 mesures qui reposent sur la responsabilité du ministère de l'Éducation et du développement de la petite enfance. L'intervention gouvernementale est nécessaire pour mettre en œuvre des changements systémiques et allouer des ressources pour traiter la violence scolaire, soutient M. Lutz. Premièrement, il est important que le ministère développe une stratégie en collaboration avec les éducateurs pour gérer la violence scolaire, incluant la définition de la terminologie de la violence dans les écoles, des objectifs, des rôles et l'utilisation de PowerSchool pour la collecte des données. Deuxièmement, le code de conduite mérite une mise à jour avec des directives sur la gestion des comportements inacceptables, les conséquences appropriées et la communication régulière aux élèves et aux parents. Troisièmement, il faut améliorer les processus de collecte de données sur le sujet. Quatrièmement, il faut un suivi des incidents de confinement, c'est-à-dire d'exiger aux centres régionaux pour l'éducation et au Conseil scolaire acadien provincial un suivi et des analyses régulières. Enfin, Mme Adair préconise la mise en place de plans de gestion de situations d'urgence. M. Lutz indique que la violence scolaire a des impacts significatifs sur la santé mentale des professeurs. Assurer leur sécurité est essentiel pour maintenir un environnement d'apprentissage efficace et soutenir la réussite des apprenants. Pour M. Côté, avoir une approche collective de la responsabilité est à prendre en compte. Il explique qu'impliquer les élèves dans la responsabilité de la sécurité scolaire favorise un sentiment d'appartenance et d'engagement. En encourageant la collaboration entre élèves, enseignants, parents et personnel scolaire, on crée un réseau de soutien efficace pour la prévention de la violence, dit-il. Par ailleurs, les réseaux sociaux, selon le président du syndicat, impactent le comportement des jeunes. Ainsi, il suggère la nécessité d'engager des conversations et des directives sur l'utilisation de ces plateformes aux élèves, mais aussi à toute la société. En sensibilisant les jeunes aux conséquences de leurs actions en ligne, on favorise une utilisation responsable et réfléchie de la technologie, déclare M. Côté. En encourageant les comportements respectueux et éthiques en ligne, on contribue à créer un environnement numérique positif et bienveillant pour tous. En ce qui concerne les parents, M. Côté met l'accent sur leur rôle qui est celui de la gestion à l'accès de la technologie. En leur fournissant des conseils pratiques et des stratégies de gestion, ils peuvent créer un environnement numérique plus sûr et équilibré pour leurs enfants. En fin de compte, M. Côté pense que la promotion de la citoyenneté numérique doit être un effort qui implique tous les niveaux de la société. En travaillant ensemble, les familles, les écoles, les centres régionaux et le gouvernement peuvent créer un changement significatif dans la culture en ligne, favorisant ainsi l'utilisation plus sécuritaire, respectueuse et responsable de la technologie, relève-t-il. Dans l'ensemble, la sécurité dans les écoles est une responsabilité collective et il est impératif que tous les acteurs travaillent ensemble pour résoudre ce problème urgent, conclut le président du syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse. C'était La violence scolaire, un problème persistant, un texte de Farida Agogno, paru le 20 juin 2024 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse.
Nouveau traitement contre l'Alzheimer, à quoi s'attendre? Un texte de Raphaël Durham, paru le 16 mai 2024 dans le magazine Québec Science. L'approbation d'un nouveau médicament aux États-Unis, le premier en 20 ans, suscite espoir et controverse. 4. C'est le nombre de médicaments disponibles au Canada actuellement pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Des molécules qui aident à gérer les symptômes de la maladie, mais qui ne la guérissent pas, et qui ne sont efficaces que chez 10% des personnes touchées. Pour un temps, leur état se stabilise, voire s'améliore visiblement. Mais ces médicaments n'empêchent pas les neurones de mourir. À la longue, le déclin cognitif progresse inexorablement. Ce manque d'options frustrait déjà Frédéric Calon dans les années 1990 pendant ses études en pharmacie. Pour à peu près toutes les maladies, on avait pas mal d'outils pour aider les gens. Mais pas contre la maladie d'Alzheimer. Je trouvais ça très problématique pour une maladie aussi fréquente, se rappelle celui qui étudie aujourd'hui les maladies neurodégénératives au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Effectivement, On a ici affaire à une maladie qui affecte 10 % des plus de 65 ans. Et comme la population canadienne vieillit, le pays pourrait compter en 2030 un million de personnes vivant avec l'Alzheimer ou un autre trouble neurocognitif, selon un rapport de la Société Alzheimer du Canada. Mais voilà qu'après des années de ratés, la recherche porte enfin quelques fruits. Un nouveau traitement a été approuvé l'été dernier aux États-Unis, le lecanemab. Le suffixe « mab » indique qu'il s'agit d'anticorps monoclonaux, monoclonal antibodies en anglais, soit des anticorps tous identiques. Ces molécules produites en laboratoire aident le système immunitaire à cibler des protéines précises pour s'en débarrasser. Dans ce cas-ci, le traitement s'attaque à la protéine bêta-amyloïde, celle qui forme dans le cerveau des plaques séniles, dont la présence est associée au déclin cognitif. Ce sont ces plaques qui ont été observées et décrites dès 1906 par le médecin allemand Alois Alzheimer quand il fit l'autopsie du cerveau d'une patiente de 55 ans atteinte de démence. Depuis les années 1990, l'hypothèse scientifique dominante veut qu'en détruisant ces plaques, on parviendrait à modifier le cours de la maladie. Mais la maladie est sans doute plus complexe. On y reviendra. Comme d'autres anticorps monoclonaux avant lui, le lecanemab réduit les accumulations d'amyloïdes dans le cerveau. Mais pour la première fois, cette réduction s'accompagne enfin d'un bénéfice clinique. Le lecanemab ralentit modérément le déclin cognitif chez les personnes au stade de troubles cognitifs légers et de démence légère. Fort de ce succès, ses fabricants, Biogen et Eisai, ont soumis une demande de commercialisation du lecanemab à Santé Canada en mai 2023. En février 2024, le géant Eli Lilly a fait de même pour son propre anticorps monoclonal anti-amyloïde, le donanemab. Ces deux demandes étaient toujours en examen au moment où ces lignes étaient écrites. Mais dans l'attente du verdict, les spécialistes discutent déjà de ce qui pourrait changer advenant l'arrivée de ces anticorps sur le marché canadien. Des traitements exigeants. Précisons d'abord une chose. Ces deux anticorps monoclonaux ralentissent le déclin cognitif mais ne rendent pas la mémoire aux patients. À la fin de l'essai clinique, les gens qui avaient reçu le lecanemab avaient un petit peu moins décliné que ceux qui avaient reçu le placebo, mais ils n'étaient pas mieux qu'au début, souligne le Dr Christian Bocti, directeur du service de neurologie au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Avec 18 mois de traitement, on retarde la progression de la maladie d'environ 6 mois. L'effet est mesurable par des tests standardisés. Mais, en pratique, la différence n'est pas forcément perceptible par le médecin traitant, les malades ou leurs proches. On est donc loin de la pilule miracle. D'ailleurs, il ne s'agit même pas d'une pilule. Le lecanemab est administré par voie intraveineuse, à raison d'une séance de perfusion toutes les deux semaines. Si Santé Canada autorise sa commercialisation, il reviendra à chaque province de décider si elle le couvrira dans son régime public. Au Québec, ce rôle revient à l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, INES. Ça va être tout un dilemme, parce qu'effectivement, l'efficacité n'est pas si impressionnante que ça, compte tenu des coûts, estime le professeur en pharmacie Frédéric Calon. Aux États-Unis, le traitement coûte 26 500 $ 37 000 $ canadiens par an. Vous écoutez? Nouveau traitement contre l'Alzheimer, à quoi s'attendre? Un texte de Raphaël Durham paru le 16 mai 2024 dans le magazine Québec Science. Il y a aussi des conséquences sur l'organisation des soins. Avant de commencer le traitement, il faut confirmer la présence de protéines problématiques dans le cerveau du patient ou de la patiente en réalisant une ponction lombaire ou une tomographie par émission de positrons, PET scan en anglais, des examens coûteux. Ensuite, il faut surveiller étroitement les effets secondaires. 20 % des gens ont souffert d'édèmes ou de micro-saignements au cerveau. Cela oblige les personnes traitées à passer jusqu'à 4 IRM par an. Alors que l'Alzheimer est actuellement pris en charge par les médecins de famille, les neurologues, déjà débordés, seraient beaucoup plus sollicités. Le système de santé canadien n'est pas prêt pour l'arrivée de ces nouveaux médicaments, constatait récemment un groupe d'experts dans le Journal canadien des sciences neurologiques. Un élément pourrait rassurer les payeurs et les assureurs. Même si l'Alzheimer est une maladie fréquente, le lecanemab s'adresse uniquement aux gens qui en sont au premier stade de la maladie et qui n'ont pas de contre-indications, prise d'anticoagulants, port de stimulateurs cardiaques. Le bassin de personnes admissibles est donc restreint. Combiner les traitements. Le docteur Serge Gauthier, spécialiste de l'Alzheimer et professeur retraité de l'Université McGill, ne se laisse pas démonter. C'est le premier médicament d'une nouvelle classe et tout le monde s'accorde pour dire que son effet est insuffisant. On n'a pas tout réglé. Confiant, il compare l'avenir des traitements contre l'Alzheimer à l'approche actuelle contre le cancer. Ce sera comme avec la chimiothérapie. Il faudra combiner 2 ou 3 traitements, ajouter un antitau. La protéine tau est aussi impliquée dans la maladie. Peut-être un anti-inflammatoire. Ça s'en vient. Un essai clinique, 9 mois de traitement au lecanemab, suivi d'un traitement antitau, est déjà en cours à Québec et à Montréal, et on s'attend à avoir des effets cliniques plus importants. De son côté, Christian Bocti dit n'avoir jamais été convaincu par l'hypothèse amyloïde. Il juge qu'il faut explorer d'autres voies. Il ne faut pas penser qu'on va avoir une seule explication pour la maladie d'Alzheimer, dit-il. Dire que la bêta-amyloïde cause tout et qu'en l'enlevant, on va guérir l'Alzheimer, c'est très vendeur dans les médias, mais malheureusement, la réalité est plus complexe que ça. Le monde de la recherche semble enfin en avoir pris note. Il y a moins une obsession sur l'amyloïde qu'il y a 3 ou 4 ans. On a une diversité d'essais cliniques dans le monde qui est rassurante, souligne Serge Gauthier. Ainsi, comme on reconnaît maintenant que des processus vasculaires et métaboliques peuvent aussi causer des troubles cognitifs, on estime que des médicaments développés à d'autres fins pourraient aider. On examine donc présentement si de vieux médicaments comme la metformine, un antidiabétique, ou même le Viagra pourraient aider à lutter contre l'Alzheimer. Et on continue, bien sûr, de suivre ceux et celles qui prennent du lecanemab. Les gens sont dans un registre, c'est surveillé et on va apprendre des choses, dit Serge Gauthier. Est-ce qu'il y a un intérêt à continuer le traitement pour 2 ans, 3 ans? On le saura d'ici 1 an. Les médicaments disponibles. L'Alzheimer affecte au moins 2 neurotransmetteurs dans le cerveau, tous 2 impliqués dans la mémoire et l'apprentissage. 3 des médicaments actuels, le donepezil, la rivastigmine et la galantamine, visent à rétablir les niveaux du premier neurotransmetteur, l'acétylcholine, alors que le 4e, la mémantine, agit sur le 2nd, le glutamate. Si la personne répond bien au traitement, on observera une stabilisation ou une légère amélioration temporaire de la mémoire, de la concentration, du langage et du comportement, éveil, motivation, calme. C'était « Nouveau traitement contre l'Alzheimer, à quoi s'attendre ?» un texte de Raphaël Derum paru le 16 mai 2024 dans le magazine Québec Science.
Le Nunatsiavut est le grand gagnant du prix Inspiration Arctique. Un texte de Nelly Guidici paru le 16 mai 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon. Le prix Inspiration Arctique a été remis le 7 mai 2024 lors d'une cérémonie au Centre culturel Kuanlin Dune à Whitehorse, au Yukon. 10 projets ancrés dans le Nord canadien ont été récompensés, et plus de 3,2 millions ont été distribués lors de cette soirée à laquelle plus de 300 personnes ont assisté. La sécurité alimentaire ou encore l'apprentissage de l'inuktitut sont au cœur de certains projets primés. Le grand prix de 1 million de dollars a été décerné au centre Inuktitut à Hopedale, au Nunatsiavut. Inuktitut signifie « un endroit où bien vivre » en Nunatsiavut, et ce centre sécuritaire et accueillant est voué à la revitalisation de l'Inuktitut et de la culture inuite. Avec ce prix, des programmes destinés à renforcer les compétences, l'estime de soi et la fierté d'être inuit seront mis en place par l'intermédiaire du cours d'Inuktitut et de formations culturelles variées. Citation : Ce prix change tout, pas seulement pour notre équipe, mais aussi pour toute la communauté du Nunatsiavut. Nous n'en serions pas là aujourd'hui sans l'indéfectible soutien de notre communauté, et recevoir la reconnaissance du prix Inspiration Arctique ainsi que le prix de 1 million de dollars nous comble de bonheur. Merci à l'équipe du prix Inspiration Arctique pour son énorme soutien. Quel privilège d'avoir maintenant les moyens de planifier et de financer des programmes culturels et linguistiques pour les prochaines années. Fin de citation, a déclaré l'équipe d'Inuktitut. 5 prix allant de 112 000 à 500 000 $ ont également été remis. La ferme école thérapeutique du Yukon a reçu un prix de 500 000 $ et est destinée aux élèves souffrant d'autisme, de retard cognitif ou de TDAH, de la maternelle à la 12e année. Cette école atypique favorise l'apprentissage par l'expérience en proposant notamment des approches basées sur l'ergothérapie, l'orthophonie, la thérapie par le jeu, la musicothérapie et la thérapie équine. Le centre Taiki Aninti au Yukon a reçu 499 000 $. Depuis que le territoire a décrété en janvier 2022 l'urgence de santé publique liée à la consommation de substances, les services de post-intervention ne suffisent pas à la demande. Ce centre offrira donc des services supplémentaires de rétablissement et de mieux-être pour bonifier les programmes de rétablissement de la santé qui allient la culture autochtone et les pratiques occidentales afin d'intervenir auprès des personnes et des communautés. Ce centre biculturel va maintenant élargir ses activités et intervenir dans l'ensemble du territoire pour que toute la population ait accès à des programmes de rétablissement. L'initiative « Apprendre, s'approvisionner en nourriture, gagner sa vie » « Learning, Harvesting, Earning » a reçu 425 000 $. Face au fléau de l'insécurité alimentaire au Nunavut, ce projet a pour but d'enseigner aux garçons et aux jeunes hommes les techniques traditionnelles de pêche à l'omble chevalier, autant dans les sites de pêche estivaux qu'hivernaux. Par l'apprentissage de la pratique durable de la pêche et l'acquisition de compétences traditionnelles, les garçons et les jeunes hommes autochtones gagneront en autonomie et contribueront à l'essor de leur collectivité. Le projet « Les réunions de Nutak et de Hébron » a reçu la somme de 298 000 $ afin de permettre aux personnes encore vivantes et valides qui ont été expulsées de Hébron, de Nutak et d'Okak au Nunatsiavut de retourner ensemble vers leur terre natale en juillet 2024. Citation : Nous ne voulons pas choisir qui peut s'y rendre, mais nous voulons y retourner tous ensemble. Fin de citation, a déclaré Lena Onalik, très émue lors de la réception du prix. Les effets durables de ce projet permettront aux personnes expulsées et les membres de leur famille d'y retourner régulièrement dans le futur. Fondée dans les années 1830 par les missionnaires moraves, Hébron est l'un des lieux les plus importants du Labrador sur le plan culturel. Des offices religieux y étaient dispensés et on y trouvait également un centre éducatif, commercial et médical. De nombreux Inuits de la région s'y rendaient aussi à l'occasion de fêtes religieuses comme Noël et Pâques. Les trois communautés ont été abandonnées en 1956 et 1959 à la suite de la fermeture des missions moraves. Sans aucun préavis et sans avoir été consultés, 417 résidents inuits ont été relocalisés à plus de 150 km au sud, à Nain notamment. Enfin, le projet « Autochtoniser l'emploi par le soutien et le savoir traditionnel » a reçu 112 000 $ et est implanté dans les territoires du Nord-Ouest. Ce projet s'adresse aux employés de l'entreprise d'artisanat Aurora Heat à Fort Smith. Cette entreprise conçoit et fabrique des produits en fourrure de castor, comme des chauffe-mains ou des chauffe-pieds. Ces produits sont tous faits à la main par 14 employés. Cependant, face à l'insécurité alimentaire et la perte des liens avec la culture autochtone auxquels font face ses employés, Brenda Dragon, fondatrice de l'entreprise, souhaite leur apporter son soutien dans un environnement de travail flexible. Avec cette somme, une serre arctique va être construite sur le lieu de travail afin que les employés bénéficient, pendant leurs heures de travail, d'ateliers avec des personnes aînées sur l'importance de la nourriture traditionnelle et de la connexion au territoire. Dans la catégorie jeunesse, 4 projets ont été récompensés. Le projet « Investir dans l'avenir des femmes inuites » a reçu 98 000 $ et a pour objectif de créer des occasions d'emploi et d'acquisition de compétences pour de jeunes femmes et de jeunes mères inuites. Les compétences ainsi acquises leur permettront d'augmenter à la fois leurs revenus et leur estime de soi. La troupe de théâtre jeunesse du Yukon, Yukon Theater for Young People, a reçu 99 000 $. Cette somme permettra d'organiser un festival d'art dramatique de 3 jours au Centre des arts du Yukon au début de l'année 2025. Love Inuktitut, dont le but est de revitaliser et de protéger 11 dialectes d'Inuktitut, a reçu 100 000 $. La création d'une application novatrice qui intègre des vidéos d'apprentissage des langues dans les activités de la vie quotidienne s'ajoutera aux ressources existantes d'enseignement de l'Inuktitut. La Coalition des jeunes pour la sécurité alimentaire Nord a reçu 100 000 $ pour son projet qui vise à échanger avec les jeunes, à les soutenir et à les mettre en relation pour qu'ils lancent des initiatives alimentaires dans leur région. Le but de la coalition est d'amener les jeunes à s'engager dans la production alimentaire locale et à se sentir en confiance pour partager leurs connaissances et leurs expériences. Les responsables du projet entendent créer un réseau de ressources géré par et pour les jeunes, réseau qui les encouragera à participer aux débats et aux initiatives en lien avec l'alimentation dans le Nord. C'était « Le Nunatsiavut est le grand gagnant du prix Inspiration Arctique », un texte de Nelly Guidici, paru le 16 mai 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon.